Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
La vie mancelle et sartoise, la revue qui plonge dans l'histoire et le patrimoine local, est de nouveau chez votre marchand de journaux. Ce 476e numéro contient donc le second volet consacré au centenaire des 24 heures du Mans. Il évoque également différents acteurs de la vie sartoise, comme à l'habitude. Et monsieur Jean-Pierre Guyard, président et directeur de la publication, est notre invité sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous nous l'aviez promis, donc centenaire des 24 heures du Mans, la vie mancelle y consacre quelques pages dans chacune de ses revues. Et c'est un illustre sartois qui fait la une de la couverture, Fernand Tavano. Pierre-Yves Cornu nous présente ce ferrariste dans l'âme.
Et oui, effectivement, c'est quelqu'un de très connu sur Le Mans, puisque bon, il y a une rue Fernand Tavano du côté dans le quartier de Olivier Heuzet et de La Libération. Et d'ailleurs, Madame Tavano habite toujours le quartier. Donc, Fernand Tavano, comme son nom l'indique, est d'origine italienne, c'est-à-dire du Piémont italien. Et le papa, Celso, avait fui Mussolini et ses sbires et il était venu rejoindre son frère en France. Donc, d'abord ouvrier maçon, puis contremaître à Sillier Guillaume. Et puis, il crée son entreprise au Mans. C'était la rue d'Allonne à l'époque. Et puis, il va être un entrepreneur prospère. Alors Fernand, lui, il était très dynamique, turbulent, hein, mais il rêvait de compétition. Il voulait faire du vélo, pas comme Fausto Coppi ou Bartali, qui étaient à l'époque des vedettes du Giro, du Tour de France, et qui étaient des coureurs italiens. Mais il a plutôt évolué vers l'automobile. Vers l'automobile, puisque son frère avait acheté une Simca Sport. Et d'ailleurs, il était très, très fier de la Simca Sport, il l'a essayé. Et puis en 53, il départ d'un rallye, mais bon, le moteur n'avait pas suivi. En 54, il a fait le rallye de Touraine, termine que 74e, hein, c'est-à-dire que c'était un jeune pilote, mais qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui n'avait pas une voiture qui était très, très, très puissante. Et puis là, il voulait une vraie voiture. Bon, la famille s'est mobilisée, et donc ça a été l'achat de la première Ferrari. Puisque, comme tout bon Italien, il était, qu'on peut appeler, ferrariste. En 56, il commande une Ferrari 500 TR avec un moteur de 190 chevaux. Et puis, donc, il fait ses premières 24 heures avec Pierre Mera. Et puis, suite à l'accident de 55, toute la ligne des stands a été reconstruite. Et donc, après, il y a eu des nouveaux départs, puisque l'épreuve avait eu lieu à cette époque-là, les 28 et 29 juillet. Et puis, il continue à courir, mais tout se passe à merveille cette année-là pour nos deux pilotes jusqu'aux alentours de 22 heures. Mais malheureusement, la voiture est abîmée puisque il est rentré en collision avec une Ferrari. Il était parti en tête à queue dans un des virages de Maison-Blanche. Donc la Ferrari est complètement détruite. Donc il y a ses amis qui se mobilisent, on lui donne un petit peu de sous, et donc en 57, il repart, toujours avec une Ferrari, la Ferrari TRC, mais il abandonne malheureusement après la 23e heure de course. 58, disons que là ce sera un petit peu différent, parce qu'en 1958, donc il laisse sa voiture au garage, et il conduit une voiture qui va devenir un très célèbre, le North American Racing Team, donc qui a engagé les Ferrari. En 59, il lui prête plus de voiture, hein, c'est-à-dire qu'il est obligé d'en acheter une. Mais par contre, il courra quand même sous la bannière du North American Racing Team. Bon, le samedi, il y a un problème de ravitaillement en essence, donc il a réussi à faire un tour, mais pendant la nuit, panne électrique. Et puis, malheureusement, il faut qu'il rentre à la lueur des veilleuses. La course se déroule ensuite très très bien, puisqu'il termine à la 5e place au classement général, et c'est la première fois que Fernand Tavano voit l'arrivée des 24 heures. En 1960, donc, c'est la berlinette 250 GT, et puis ainsi de suite. Il sera toujours pilote d'usine Ferrari, donc 61. En 62, ce sera la GTO, la 250 GTO. Donc quand même 12 cylindres, 300 chevaux et 290 km/h. On peut rouler vite. Mais, nouvelle déception, à la fin de la nuit, le pont arrière donne des signes de faiblesse, on est obligé d'abandonner. Donc là, Fernand se dit, il envisage d'arrêter la compétition. L'année d'après, quand même, il va prendre départ avec, cette fois-ci, une voiture officielle, une GTO, et 64, il a encore des problèmes malheureusement, et il ne termine qu'un 9e. Bon, et là, il annonce qu'il ne courra plus au Mans. Et puis, là, en 65, ce sera une retraite bien méritée. Et malheureusement, il devait disparaître au mois d'août 1984, victime d'une longue maladie.
On va revenir sur ce volet que vous consacrez aux 24 heures avec la Renaissance et les premières 24 heures auxquelles a assisté un de vos membres de l'équipe, Claude Goisdieu.
Tout à fait. Donc effectivement, puisque en 1900, il y a eu quand même une interruption d'une dizaine d'années due à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les 24 heures n'ont repris qu'en 1949. C'est-à-dire que tout avait été absolument détruit. Toutes les installations, puisqu'on n'était pas loin de l'aérodrome et on n'était pas loin également de la gare de triage, donc tout avait été bombardé. Donc en 1949, on se dit on était prêt à redémarrer avec un nouveau règlement, mais il avait fallu trouver des fonds. Bon, donc Christian Pinault, qui était ministre des Transports, il avait apporté son aide pour un prêt de 30 millions à l'Automobile Club de l'Ouest. Il y a également le British Racing Drivers Club qui a versé 520 000 francs. Et puis beaucoup de concurrents ont fait des dons personnel de façon à ce que ça reparte. Et la CO a financé la 17e édition en 1949. Donc le circuit était remis à neuf. Quand on voit, et pour les lecteurs qui auront le plaisir d'avoir la revue en main, donc les stands construits en 49, donc ils seront détruits en 56 après l'accident. C'était des stands qui étaient très bas, puisqu'il n'y avait pas d'étage, et le dessus c'était des gradins. Donc des grandes entreprises comme Fronto, Craveia, Lisée, Eulin, effectivement, ont participé à la construction. Et la première édition d'après hier, il y avait 104 engagements qui avaient été reçus pour vous dire l'engouement déjà à cette époque pour les 24 heures. Et il n'y en avait eu que 49 de retenus par la CO pour des raisons de sécurité, effectivement. Bon, là, il y avait des voitures, puissantes voitures d'avant-guerre et des voitures dotées de nouvelles technologies. Oui, il y avait la 4 chevaux. Et d'ailleurs, il y a une photo de la 4 chevaux dans les S du Tertre Rouge à la lutte avec une Delahaye. Donc, et les Aston Martin, Talbot, Delahaye, Delage courent également pour la victoire au classement général. Et il y a une nouvelle marque qui apparaît, et qui s'appelle Ferrari, qui sont conduites par Luigi Chinetti. Luigi Chinetti, d'ailleurs, qui est fort connu, puisqu'il y a un parking en face du musée de la CO qui s'appelle le parking Chinetti. Donc, il y a à peu près 100 000 spectateurs. Tous en soleil de plomb assistent au départ, qui est donné par Christian Pinault, qui était ministre des Transports, donc le Sartois Christian Pinault, en présence du président de la République, Vincent Auriol. Et puis, Madame Mafoy, là, c'est le début d'une longue saga, puisque Ferrari, première participation au Mans, première victoire. Et également, ce sera le début d'un grand mariage qui durera, une longue fidélité, qui durera très très longtemps, jusqu'en 1965, entre Ferrari et Luigi Chinetti. Puis cette année-là, il y avait notre ami Claude Goisdieu. Alors ceux qui le connaissent, qui verront la photo, verront qu'il a quelque peu changé maintenant.
Il était quand même tout jeune à l'époque.
Ah mais il avait 16 ans le gamin. Donc, avec son papa, ils sont partis dimanche matin. Alors, c'était toute une expédition à l'époque. Hein. Alors, en vélo, il fallait qu'ils aillent à la gare de Pont-de-Gênes pour prendre le train, la Micheline. Hein. Ils arrivent à la gare du Mans. Et puis, il part à pied, de la gare du Mans pour monter jusqu'au territoire rouge. Oui, parce qu'il y avait une entrée, effectivement, qui se faisait au territoire rouge. Et puis, si vous voulez, c'est difficile un petit peu de décrire l'article parce que c'est quand même le ressenti d'un adolescent qui, à l'époque, en 1949, son papa l'avait amené voir la course. Et puis, il y avait le speaker qui, à l'époque, faisait le commentaire. Et puis, la voiture qui était en tête, c'était une Ferrari. Alors là, le speaker signalait son passage devant les stands et le passage de la Ferrari de tête. Et puis, après, il la voyait surgir en haut de la courbe Dunlop et puis attaquer les aides du Tertre Rouge où il était. Donc, et puis, à 16h, ils ont été un petit peu déçus parce qu'ils s'attendaient à ce que Ferrari fasse un tour d'honneur. Non, ils n'ont pas fait de tour d'honneur. Et puis, ils n'avaient plus qu'à faire 5 km à pied pour retourner à la gare, reprendre la machine et rentrer à la maison. Et d'ailleurs, il y a une photo, et je l'ai vue, elle est en bonne place chez Claude. C'est son papa qui avait acheté l'assiette décorée à l'effigie de la Ferrari et elle est conservée, bien entendu, précieusement chez lui.
Alors vous avez beaucoup parlé de Ferrari, peut-être qu'on peut dire quelques mots sur Porsche, la marque allemande.
Alors, Porsche, oui, effectivement. Pourquoi j'ai beaucoup parlé de Ferrari? C'est parce que l'actualité de l'époque qui pousse à parler un petit peu Ferrari, puisque là, c'était vraiment la période Ferrari. Par contre, Porsche, oui, effectivement, on va pouvoir en parler, puisque Porsche est arrivé à partir de 1951. Il faut dire que c'était pas très très facile pour eux, puisque Porsche en 49 avait été malheureusement une marque allemande. C'était une époque aussi où il fallait aller s'installer dans des petits garages. C'est-à-dire que il y en avait qui Luigi Chinetti, lui, il était venu Olivier Heusé au garage Le Beugle, Carole Shelby et compagnie. Il y en avait beaucoup qui étaient à la Charte sur le Loir. Et puis Porsche, personne n'en voulait. C'était quand même pas très très sympathique. Et Dame Meufond, il y en a un qui s'est dévoué. C'est Georges Després, propriétaire d'un garage à Télocher. Et ça a été le début d'une grande amitié et le début où, quand on se promenait la semaine des 24 heures dans Télocher, on voyait des Porsche. Oui, parce qu'à l'époque, après il y a eu les plateaux pour emmener les voitures, mais à l'époque, on y allait je dirais pas qu'on y allait à pied, mais on y allait en roulant avec sa voiture. On les emmenait directement au circuit par la route. Et puis, il y a eu effectivement une époque où ça s'est arrêté un petit peu dans les années en 75, effectivement. Donc, l'intervention du groupe C, dont la garde au sol était très faible, effectivement, les voitures étaient hyper basses et ne pouvaient plus rentrer ni sortir dans le garage de notre ami Georges Després. Alors, aujourd'hui, à Télocher, il y en a beaucoup, il y a une association qui s'appelle Télocher Événements, qui font revivre l'épopée et qui feront, pour le centenaire, qui feront une grande manifestation l'an prochain, où on pourra se rappeler qu'on voyait les Porsche qui roulaient dans les rues de Télocher.
On va s'arrêter sur ce volet des 24 heures. Il faut laisser la place aussi à ceux qui aimeraient donc savoir de quoi on parle également dans cette revue, parce qu'il n'en faut pas que pour les 24 heures, on est bien d'accord. Donc on va peut-être s'autoriser une petite escapade, comme l'a fait Daniel Levoyer, hors département, donc à la limite du département, du côté d'Origny-le-Roux.
Alors, Origny-le-Roux, qu'est-ce qu'il y a du côté d'Origny-le-Roux? Hors département, ça fait quand même 3 km, 3,5 km de la frontière, donc on va dire que nous sommes sur des terres presque sartoises, bien que normandes. Donc, Origny-le-Roux, dans le Perche, il y a un château où la famille de Daniel Levoyer, qui et ses grands-parents, qui sont d'origine belge, sont venus s'installer parce que après la crise de 1929, malheureusement, il y a eu quelques soucis, je dirais, dans l'industrie de la fabrication de briques, la briqueterie familiale qu'il y avait en Belgique, et donc ils sont venus pour retenter leur chance et refaire. D'ailleurs, comme dit Daniel, ils ont eu un peu de mal au départ parce qu'ils vécurent ainsi de briques et de broc. Donc, ils se sont installés à Cherpérine. Et là, ils étaient... Le grand-père, lui, s'occupait des serres du jardin du potager et les cuisines. Madame, la grand-mère, était cuisinière du château. Donc, le château de Cherpérine, avec des origines au XVIIe siècle, et a été... effectivement un magnifique château un petit peu en petit, hein, à l'image de Versailles, puisque, oui, effectivement, on voit dans l'entrée avec le château au fond. Bon, restons modestes. Et puis, donc, il y a eu des successions après qui ont été faites en chaîne pour arriver à ce qu'il y a, disons, à l'architecture que l'on connaît actuellement. C'est marqué très longtemps par la dynastie des Lévi-Mirepoix, la maison de Lévi, des Lévi-Mirepoix qui, le premier à participer effectivement à la croisade des Albigeois. Donc pour vous dire que c'est quand même une très vieille famille. Donc ils ont acheté Cherpérine, ils se sont installés à Cherpérine. Ensuite, il y a eu en 1924 un terrible incendie, où il ne restait pas grand chose, hein, parce que deux travées et l'étage supérieur, il n'y en avait plus. L'avant-corps, il y avait le côté sud qu'on voyait encore à peu près, mais c'est à peu près tout ce que l'on voyait. Donc effectivement, il a quand même été rénové. Et puis, il faut dire que Cherpérine joue un rôle très important dans l'art, puisque en 1939, il a fallu cacher beaucoup d'œuvres d'art qui se trouvaient au Louvre, et donc le château de Cherpérine a servi d'abri à de très très nombreuses œuvres d'art. Comme par exemple des rouleaux, on les mettait souvent en rouleau ou sur châssis. Et donc la famille du Grand Dauphin par Mignard, les batailles d'Alexandre le Brun, les noces de Cana de Véronèse, le sacre de Napoléon Ier, disons que tout cela avait pris pension, a été sauvé grâce au château de Cherpérine. Et puis il existe toujours ce magnifique château et on peut le visiter toute l'année d'ailleurs, les dimanches et jours fériés, tous les après-midi. Vous pouvez vous rendre là-bas sur rendez-vous auprès de Madame Eliane de Lévi-Mirepoix, puisque c'est une descendante de la famille qui est toujours propriétaire. Hein, donc, rendez-vous au château de Cherpérine, à quelques kilomètres de la Sarthe, et vous découvrirez un fleuron du patrimoine local.
Voilà, l'invitation est lancée. On l'a présentée, la Marguerite, père des Marguerites, princesse royale de la branche des Valois-Angoulême, duchesse d'Alençon, baronne du Saunois, duchesse du Berry, puis reine de Navarre. Autant de titres qui méritent bien que Gérard Blanchard consacre quelques lignes à cette jeune dame.
Tout à fait, j'allais vous dire, non, je t'en plus, la cour est pleine de titres, effectivement. Oui, c'est une jante dame. On peut dire, la Sarthe là-dedans, mais si, puisque effectivement, c'était également une érudite et quelqu'un de très cultivé, et qui était également mécène et qui protégeait les écrivains. Elle a effectivement fréquenté, c'est à ce titre qu'elle a un rapprochement avec la Sarthe, puisqu'elle a énormément fréquenté ce que l'on mènera le groupe plus tard de la Pléiade. Et elle a écrit un certain nombre de nouvelles, l'Heptaméron, la 29e nouvelle par Marguerite de Valois, reine de Navarre, et ça se passe effectivement dans la Sarthe. Ça se passe dans la Sarthe. Alors, vous vous situez très exactement, mais c'est dans le coin d'Alençon. C'est peut-être Villeneuve-en-Persaigne ou Villaine-la-Carrelle, puisque c'était une paroisse du Saunois qui était tout près d'Alençon, hein, pour le l'Heptaméron. Voilà un petit peu le pourquoi on a écrit cet article de quelqu'un qui, effectivement, est, comme le château de Cherpérine, frontalier.
Elle a d'ailleurs donné son nom, donc je pense, au lycée Marguerite de Navarre, que tout le monde connaît.
Effectivement, parce qu'il n'y en avait quand même pas deux.
Une autre femme, peut-être moins connue, que vous évoquez dans ce magazine, mais vous souhaitez donner quelques explications à ces nombreux Sartois surpris d'entendre que le stade MM Arena a été rebaptisé, donc stade Marie Marvin.
Ah oui, alors Marie Marvin. Marie Marvin, j'étais comme tous les Sartois, un petit peu, qui est Marie Marvin? Puis bon, à Vimancelles, c'est bête, on a tous une curiosité naturelle, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a de l'autre.
Vous deviez donner quelques informations à nos auditeurs.
Oh, bah oui, quand même. Surtout qu'il y a eu du mouvement de colère que je comprends pas trop. Si vous voulez, Marie Marvin était la seule survivante à une époque où la mortalité infantile était très importante. J'insiste sur ce fait-là, puisque elle avait trois frères qui sont décédés. Et le papa, qui est un grand sportif, avait pensé à un moment transmettre la flamme à ses fils. Et comme il n'y a que Marie qui a survécu, donc c'est elle qui a hérité des talents de son papa, et son papa l'a entraînée à toutes sortes de sports. Alors, quand je dis toutes sortes de sports, que ce soit le vélo, oui, parce qu'elle a quand même été refusée au Tour de France, oui, parce qu'elle a voulu faire le Tour de France avec les hommes. Et donc elle partait, apparemment, on n'a pas de preuve de ça, mais elle aurait fait un tour complet en partant quelques heures avant les coureurs. Et puis, bon, elle a été une des premières femmes à avoir sa licence de conductrice d'une automobile. Donc, elle a fait de la compétition automobile, elle a fait des courses dans le Sahara, comme c'était un peu la mode à l'époque. Puis, elle a fait un petit peu d'études. Elle a fait du droit. Oh, puis elle a dit, tiens, je ferais bien de la médecine. Effectivement, elle a été très brillante, malgré qu'elle ne parle que 5 langues. Hein. Alors, pour une femme début du XXe siècle, c'est quand même... Et puis, elle avait un brevet de pilote. Pilote d'aéroplane. Alors, ben, elle a voulu s'engager dans l'armée de l'air. On n'en a pas voulu. Elle avait réussi quand même à s'installer et puis à participer à des bombardements. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait le pilote qui était à l'avant et il y avait le copilote, il était derrière, et c'était lui qui avait le stock de bombes sur les genoux et qui les jetait le long en volant. Et puis, ben, quand ça a été découvert, on a dit, donc, ben, c'est dit, oui, ben, à ce moment-là, moi, je vais m'engager. On n'a pas voulu la mettre dans la tranchée. Elle a réussi, déguisée en homme, à faire un petit peu de tranchée. Puis quand on s'en est aperçu, bon, on a dit, tiens, elle a fait médecine, on va la mettre infirmière. Et voilà, un petit peu... Elle est venue au Mans, d'ailleurs, en 1928, puisqu'elle était conférencière et elle parlait de l'aviation sanitaire. Puisqu'elle avait quand même participé et inventé un avion ambulance. Bon, ça valait quand même bien. Sportive, la fiancée du danger, oui, parce que ça, on peut dire qu'elle a pris beaucoup de risques. Ça méritait tout de même qu'on lui donne le nom d'un stade, non ?
Et jamais 203, une autre femme mise à l'honneur dans ce magazine, c'est l'avocate Mancel, Germaine Brière. Et là, c'est Jacques-Henri Minier donc, qui nous présente cette femme féministe et passionnée, ça, qui a récemment inspiré l'auteur du roman « Par-delà l'attente ».
C'est le genre de femme comme Marie Marvin. Bah, effectivement, faire sa place au soleil dans certains métiers à cette époque-là, bah, lorsqu'on était servante ou lorsqu'on était infirmière, ça allait tout seul. Mais lorsque on fait des études de droit et que on se destine à la carrière d'avocate dans les années 20, au milieu des années 20, c'est pas tout à fait pareil. Il y a quand même eu un procès pour qu'elle devienne effectivement avocate. Il a fallu que la cour d'appel ordonne l'inscription de Mademoiselle Brière au tableau de stage du barreau du Mans. Oui, parce que ça se faisait pas tout seul à l'époque. Elle prête serment donc le 28 juillet dans la cour d'appel. Et puis, on la retrouve effectivement dans des affaires vraiment très très difficiles, où elle plaide avec talent. La première fois, elle défend une femme de Précigné accusée d'infanticide. Bon, effectivement, à l'époque, déjà mère de 4 enfants, elle avait jeté le 5e dans la mare. Bon, elle a réussi à émouvoir le jury et a réussi à avoir les circonstances atténuantes et n'a eu que 5 ans de prison. Effectivement, le président à l'époque, la cour vous félicite, maître, pour votre très belle plaidoirie. Après de semblables débats en cour d'assises, tous les espoirs vous sont permis. Ensuite, il y a eu beaucoup de procès, notamment La Flèche, Alençon, Argentan. En 1927, un Espagnol, un carrier de La Fresnaye-sur-Chédoué, pour un jour qu'il avait abusé un peu de la dive bouteille, il a tué l'amant de son ex-maîtresse. Ça se fait pas quand même. Hein. Et il y a eu 7 ans de travaux forcés. Donc elle a continué, une veuve à Mézeray qui aurait accouché clandestinement et qui aurait étouffé son bébé, tient 2 ans avec sursis. Et puis bon, il y en a toujours eu, Antoigné, Noyen, des affaires assez exceptionnelles. un homme, un ouvrier agricole. Il a égorgé sa patronne. Effectivement, alcoolique et violent, l'homme a un lourd passé. Bon, elle ne réussit pas. C'est le seul cas où elle s'est levée un matin à 4 heures pour aller assister à l'exécution qui se faisait en place publique à l'époque, donc qui est maintenant à la place de la République, devant la prison du Vert-Galant parce qu'elle n'avait pas réussi. Elle était allée rencontrer Albert Lebrun qui était président de la République, mais elle n'avait pas eu sa grâce. Bon, il y a eu tout un tas d'affaires et la plus importante de toutes ces affaires, ce sont effectivement le fameux crime de 1933 des sœurs Papin. Là, effectivement, elle a été avocate d'une des sœurs Papin et donc elle a peut-être sauvé sa tête dans le recours en grâce en disant, ben oui, effectivement, on ne peut pas guillotiner une folle puisqu'elle avait plaidé la folie sur, sur Christine. Pardon. Et puis, donc, et malheureusement, l'avocate des humbles et des déshérités, malheureusement, nous quittera en 1939 puisqu'elle est morte, elle est emportée par la maladie, elle était victime de la tuberculose.
On ne pourra pas évoquer tous les sujets donc présents dans ce magazine. Quelques mots peut-être sur l'article de Didier Beouty, c'est Sartois qui votèrent la mort du roi.
Oui, on peut le faire très rapidement parce qu'il y a quand même quelque chose. Il y en a qui l'ont fait en toute franchise, hein, comme vous avez pu le constater. Et puis, il y en a d'autres, ils ont été beaucoup plus discrets. Ceux qui ont fait ça en toute franchise sont quand même relativement connus, puisque un des plus célèbres n'est autre que Philippot. Philippot, il y a eu l'école Philippot à Pont-Lieu, il vote pour la mort et pour l'exécution la plus prompte. Et il y a également René Levasseur, il y a Seyès, et puis il y en a d'autres, bon, ils ont dit, ben oui, par exemple, Emmanuel-Joseph Seyès, qu'est-ce que le tire alors? Donc, lui, siégeant sur les bancs de la plaine, il vote d'une voix furtive, oui, effectivement, je suis d'accord, sans faire trop de bruit. Et puis il y en a d'autres, bon, qui ont voté pour l'indulgence au départ, parce qu'il y a eu plusieurs tours de vote, et puis il y en a qui ont réussi à dire, ben moi j'y étais, mais alors, il y en a qui se sont exilés, ça a été assez flou.
En ce qui nous concerne, on va s'arrêter sur Jacques Chevalier, donc modeste laboureur de Saint-Aubin de Locquenay, donc juste à côté de chez nous, qui opte pour le bannissement pour la tranquillité publique.
Ah oui, eh ben écoutez, effectivement, Jacques Chevalier, je dirais c'est le genre du bon sens paysan, si on peut dire. Parce que lui, il voyait pas pourquoi il y avait qu'à le bannir et puis le mettre à la porte de la France et de l'exiler. Et puis comme ça, il y aurait eu la tranquillité publique et on n'aurait pas décapité quelqu'un.
On parlait bien évidemment du roi Louis XVI, on l'a peut-être pas cité. On peut également dire quelques mots peut-être sur cet article qui, je pense, a été rédigé avec une belle collaboration de Stéphane Arondeau, que tout le monde connaît en Sarthe, pour ses talents de l'art du vitrail. C'est donc ces deux frères de nationalité allemande, Karl et Frédéric.
Kuchelbecker. Il a quitté, effectivement, c'était des Allemands hein, en Bavière, dans la Bavière. Et avec son frère en deux temps, et ils sont venus s'installer à la paroisse de Sainte-Croix et ils ont réussi à faire tous ces magnifiques vitraux que l'on peut voir un petit peu partout, notamment à l'église de Lanneray, à la Bazoge. Et donc c'est pour ça que j'invite, plutôt que de décrire des vitraux, parce que c'est pas toujours évident, j'invite nos lecteurs à aller visiter, effectivement, il y a l'église également de la Quinte, dans cette région, où ils pourront admirer de magnifiques vitraux qui ont été faits, des vitraux que l'on peut qualifier de sartois, malgré qu'ils aient été faits par des ressortissants allemands.
C'est une belle invitation justement à aller visiter ces vitraux à l'occasion des fêtes de fin d'année, notamment pour les fêtes de Noël.
Voilà.
Eh bien, on va peut-être s'arrêter là pour cette revue. On va surtout inviter nos auditeurs à se la procurer, comme à l'habitude. Et puis, surtout, on pense à ces fêtes de fin d'année. On cherche parfois une idée cadeau à mettre au pied du sapin. La revue Mancel et Sartoise, son abonnement, je pense que c'est le cadeau idéal.
Cadeau idéal, effectivement, et même en période un peu difficile de budget, puisque un abonnement d'un an coûte 31 euros. euros.
Voilà, et ça permet de s'offrir de la lecture, on va dire, à peu près tous les deux mois.
Voilà, tous les deux mois et demi, en gros, on a un nouveau numéro.
Eh bien, écoutez, on va saisir cette belle opportunité. On espère que nos auditeurs vous solliciteront justement pour cet abonnement. On vous remercie, Jean-Pierre Guyard, pour ce temps donc partagé sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles avec nos auditeurs. Et on espère qu'ils prennent plaisir à vous écouter. On va vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année.
Merci et bonne fête de fin d'année et à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, vous aussi.